Bonjour tout le monde, vous écoutez Purée, l'émission de cuisine qui donne la patate. Nous sommes Camille
et Capucine. Purée, c'est une émission mensuelle sur Radio Campus Paris 93.9. Pour ce premier épisode, on vous parle de Start Here,
commencer ici,
de la chef américaine Sola El Waili. Et pour en parler, nous avons invité Carla, notre réalisatrice et coproductrice. Coucou Carla.
Salut.
Au menu pour vous ce soir, les gourmands, on présente dans un premier temps Sola El Waili, le livre et ce qu'on en a pensé avant de vous raconter une expérience de souffler, brûler, tomber.
Puis on aborde les questions de traduction et d'adaptation d'un livre états-unien en France et on retrace les 25 recettes qu'on a testées pour vous.
25 ! Ensuite, on vous fait entendre le documentaire d'un dîner et puis on parle de la chef derrière le livre et de la starification de la cuisine.
Enfin, on se demande jusqu'où va la crème. Et on parle du livre de cuisine comme objet dans notre quotidien.
Du coup, on va parler aujourd'hui du livre Start Here de la chef Sola El Waili. Sola, c'est une... que je me permets d'appeler par son prénom. C'est une chef bengali états-unienne qui vit à New York et qui s'est formée à la cuisine à la Culinary Institute of America. Les initiales, ça fait CIA. voilà, donc Start Here, c'est son premier livre de cuisine. Excellent, au vu du nom. Le sous-titre de Start Here, c'est Instructions for Becoming a Better Cook, ou en français, du coup, Commencer ici, des conseils pour devenir un meilleur cuisinier et une meilleure cuisinière. Voilà, c'est un livre qui a été publié assez récemment, en octobre 2023, par Alfred A. Knopf et Borzoi, une maison d'édition aux États-Unis, et en Grande-Bretagne par Penguin Random House. C'est nous, l'édition Grande-Bretonne qu'on a. Et dans ce livre, il y a 226 recettes, et nous, on en a testé dans ce mois de préparation 21.
C'est-à-dire plus de 20.
C'est-à-dire à peu près un dixième du livre, ce qui est assez honorable. Voilà, donc peut-être qu'on peut parler un peu de comment est le livre en gros, quoi, pour vous le présenter à vous qui ne le voyez pas. Camille, je te laisse prendre la main.
C'est un livre déjà qui est très imposant, qui doit faire même plus qu'un A4 et qui est très lourd. On l'a pesé d'ailleurs, il fait, on a dit combien?
2,4 kg.
On le sait car c'est le poids que Carla faisait à sa naissance.
Des infos intimes aussitôt dans le podcast, pardon, dans l'émission. Et donc c'est un gros livre avec beaucoup de textes. Enfin moi je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, il y a des grandes... c'est organisé par chapitres qui sont les chapitres définis par Sola, mais pas forcément des chapitres par exemple entrée, plat, dessert. Et les recettes déjà sont très verbeuses, on dit, c'est ça, hein. Il y a beaucoup de textes et entre les parties, il y a aussi des pages de texte dans lesquelles soit elle raconte sa vie, soit elle présente un peu le contenu des recettes qui va suivre et les thèmes de ce dont elle va parler.
On peut donner quelques exemples peut-être ?
Ouais.
Le livre commence par une première partie qui s'appelle
Taste. Donc
goût.
Le goût.
Ah oui, c'est ça.
Mais peut-être juste pour raconter un peu, enfin, à l'intérieur de la première de couverture, il y a une espèce d'avertissement au lecteur ou de projet de lecture du livre de cuisine, quoi, qui commence un peu comme ça. C'est une traduction de ma pomme qui est vraiment approximative, mais c'est l'idée. Pensez à ce livre comme à un peu d'une école de cuisine dans un livre sans les longues années d'endettement. Ça, c'est une blague sur le fait qu'aux États-Unis, tout coûte quand même très très cher quand on veut faire des études. Il vous apprendra les techniques fondamentales et les bases de la science culinaire pour faire perfectionner vos capacités et votre intuition, que vous soyez un vétéran qualifié qui veut changer de perspective ou que vous n'ayez jamais fait un œuf dur. Et ensuite, sur le chapitrage, elle dit « Chaque chapitre explore un sujet que je trouve indispensable pour chaque cuisinier et cuisinière, en insistant autant sur le salé que sur le sucré, parce qu'un bon cuisinier, une bonne cuisinière, ne devrait avoir peur de rien dans la cuisine. Vous pouvez donc choisir quelques recettes au hasard et vous faire un bon repas, ou vous pouvez prendre chaque chapitre comme un cours, et là ça donne un peu le ton du livre, on est à l'école. Lisez le chapitre pour en comprendre les concepts, puis faites les recettes pour obtenir des connaissances pratiques de chaque technique. » Voilà, donc un peu pour situer le projet dans lequel tout ce verbe, toutes ces pages d'explication se situent. Et donc, si on prend par exemple l'exemple du premier chapitre sur le goût, qu'est-ce qu'elle nous raconte dans cette première partie ? On le sait par cœur.
Bah, en gros, c'est un chapitre qui... elle commence par ça en nous disant, si vous voulez apprendre à cuisiner, il faut déjà apprendre à bien goûter les choses et à se former un goût. Ce que moi, je trouve intéressant, parce que c'est vrai que peut-être qu'on ne se forme pas notre goût tous les jours non plus, quoi. Ça demande de sortir un peu des sentiers battus et pour nous savoir qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et aussi pour être capable d'identifier les choses, de savoir de quoi manque tel plat, tel assaisonnement, etc. Et j'ai l'impression que c'est là-dessus qu'elle se concentre donc, dans le premier chapitre. Pour vous contextualiser aussi, on a testé le livre chacune, donc y compris notre invitée Carla, pendant un mois. Et on l'a eu un peu à tour de rôle, ce qui nous a permis voilà, de le lire. Donc Carla, si tu as des choses à dire.
Oui, en fait, pour moi, ce livre venait à un assez bon moment de mon expérience culinaire, parce qu'il vient après, on va dire, un gros moment de fatigue ou de flemme vis-à-vis de la cuisine, où moi, qui de base aime assez cuisiner, aime assez passer du temps à préparer des choses à manger, m'étais totalement détournée de ça et ne faisais plus rien dans la cuisine, on ne m'y trouvait plus. Et c'est aussi moi qui ai donné un petit peu l'idée de prendre ce livre, parce que je suis en fait assez fan de Sola, et surtout de sa personnalité, de son existence sur Internet. Elle a deux chiens, ils sont trop mignons, un mari, un enfant, bref. Voilà, à New York. En fait, je m'étais dit, Starter, parfait. Voilà, et donc je reçois le livre, j'ouvre la première page, comment faire un œuf. Je me dis, bon, je sais faire un œuf. Il ne faut quand même pas exagérer. Bref, j'essaie de faire un œuf au plat un petit peu crispy, un petit peu croustillant, un petit peu frit sur un wok, comme une pro. Mon œuf a accroché et ne s'est plus décroché de cette poêle. voilà, j'ai encore des traces maintenant. Donc, ce n'était pas en fait aussi facile que ce que je pensais. Voilà mes premières impressions sur le livre.
Ouais, ouais. Mais grave, enfin moi je sais, la première recette que j'ai faite, c'est une recette de crumble. Et enfin, vous savez l'histoire, mais je pensais pas que la recette de crumble allait être vraiment mieux. Enfin, c'est ce que tu dis avec l'œuf au plat. Et en fait, si. Franchement, elle était mieux que mes crumbles d'habitude. Et Cap, je sais pas ce que t'en as pensé du crumble. Je sais que tu l'as fait aussi.
Bah, oui, je suis assez d'accord avec ça. Mais moi, c'est surtout sur une recette de pita que je l'ai remarqué. Une recette qui s'appelle Perfectly Puffy Pitas. Et qui, je trouve, donne un peu le ton de ce que j'ai trouvé dans ce livre. C'est-à-dire, d'un côté, c'est une cuisine hyper technique. Dans laquelle, en gros, elle t'explique pourquoi faire chaque étape d'une recette, et elle est très précise dans chaque étape. C'est aussi ça, sur le fait que ça parle beaucoup. Et donc moi j'ai fait des pitas d'une manière, bon j'avais déjà fait des pitas chez moi, moi je cuisine aussi globalement beaucoup et j'aime beaucoup ça, mais j'ai une cuisine un peu intuitive, enfin je sais pas, je cuisine avec les trucs qui sont là chez moi, et parfois je regarde des recettes sur TikTok et j'essaye un peu de me les approprier, mais globalement je suis pas quelqu'un qui suit énormément à la lettre des recettes, et là je m'y suis un peu astreinte pour cette recette de pita qui est aussi une des premières que j'ai faites, et c'était de loin les meilleurs pitas que j'avais jamais mangé de ma vie. Mais d'un autre côté, ça m'a pris 5 heures à préparer, parce qu'il fallait mélanger plusieurs fois dans des intervalles de 20 minutes à chaque fois, laisser reposer, faire les boules, laisser reposer, bon etc. Et ensuite fallait cuire tout ça sur une plaque à pizza qui allait au four. Enfin, l'idéal c'était d'avoir un four à pizza. Bon, donc chef, à la fois ça implique des choses énormes. C'est pas comme ça pour toutes les recettes, hein, évidemment. Par exemple, le crumble, en vrai, il est assez simple à faire. Mais en tout cas, il y a l'idée que, enfin, voilà, ça élève vraiment un plat qu'on pourrait connaître ou qui pourrait nous être plus ou moins familier, mais en l'amenant vraiment dans un niveau de technicité impressionnant, quoi.
Voilà, en sachant qu'on a toutes les trois un four à convection. Hein,
donc un four nul, hein, d'autres termes.
Un four nul qui ne peut recevoir qu'une plaque à gâteau de 12 cm de côté, je dirais.
Ouais, c'est l'enfer.
Voilà, mais pour les besoins de la science et de l'honnêteté intellectuelle, je n'ai pas fait les pitas dans mon four à convection. Je les ai fait dans le four de ma mère, qui est quand même plutôt un meilleur four, et qui, de surcroît, a une plaque à crêpes en fonte, que j'ai donc utilisée pour faire comme la matière un peu du four à pizza, un truc un peu de pierre, ou enfin bon, bref. Voilà.
Wow.
Waouh! La
mais
chance!
C'est assez représentatif du fait que, c'est ce que tu disais au début, elle présente le livre en disant ça s'adresse à tout le monde, que vous ayez jamais fait un œuf ou pas. Et par ailleurs, il y a quand même des recettes qui demandent un certain outillage, notamment un four à pizza, un thermomètre à sucre, là, à confiserie, et puis pas mal d'autres trucs.
Un thermomètre à viande, ouais. Des tamis, des...
Oui,
des...
moi, c'est vraiment ce qui m'a fâchée avec Sola, c'est le fait que, par ailleurs, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans ce livre, hein, et je pense que ça va s'entendre dans cette émission, mais la chose qui m'a vraiment fâchée, c'est que j'ai essayé de faire une recette qui s'appelle Any Steak and Salad Dinner, donc n'importe quel repas de steak et de salade, et moi, je cuisine très très peu de viande, c'est pas du tout quelque chose que, enfin, je sais pas, j'ai appris de mes parents, ou que moi-même... ou à quoi moi-même je me suis formée, ça va aussi avec le fait que j'ai un four pourri. Et donc là, je me suis dit, allez, je me fais un steak, mais genre un rhum steak, quoi, pas un steak haché que je fais chez moi avec un peu de moutarde dans la poêle. Donc je suis allée chez le boucher, j'ai acheté des rhum steaks, ça m'a coûté une fortune et tout. Puis après, j'arrive chez moi pour faire la recette et je me rends compte que, en fait, elle écrit dans sa recette, il faut un thermomètre à viande pour faire votre recette. Et elle dit un truc genre, vous avez bien, je sais pas quoi, une montre à votre poignet, donc vous pouvez tout aussi bien avoir chez vous un thermomètre à viande. J'étais, bah, c'est pas du... Enfin, bon, bref. Et d'ailleurs, je n'ai pas de montre à mon poignet car je suis d'une nouvelle génération qui n'a plus de montre. Mais donc voilà, donc du coup, j'ai essayé de faire ce steak. Et en fait, à un moment, je me suis retrouvée bloquée par le fait qu'elle donnait aucune indication pour savoir combien de temps ça devait cuire un steak et que tu devais simplement le savoir à la température intérieure qui devait être à 10 degrés Fahrenheit en dessous de la température à laquelle le rhum steak en fonction de son poids. Enfin, bon, bref, un truc qui demandait. Déjà beaucoup de calculs et en plus un thermomètre, et du coup j'ai fait surcuire mon steak parce que je ne sais pas faire cuire un steak et que donc elle ne m'a pas appris. Voilà.
Ouais. Mais c'est ridicule parce que t'as pas du tout besoin d'un thermomètre à viande pour faire cuire un steak dans la vraie vie. Enfin...
Moi personnellement, je n'ai jamais vu personne utiliser un thermomètre à viande pour faire cuire un steak, à la limite un gigot, à la limite quelque chose dans le four, mais dans une poêle. Je trouve ça insensé.
C'est clair. En plus, ça, si tu te bases sur le thermomètre à viande, tu te bases moins sur ce que tu ressens. C'est trop débile à dire comme ça, mais sur, je sais pas, le bruit, les odeurs, les trucs comme ça, qui t'aident pour le coup. Peu importe si ton thermomètre il est de telle marque ou de telle marque, s'il marche ou s'il marche pas, s'il est de tel type ou pas.
Oui, bah ça, c'est peut-être un peu une faiblesse du livre, qu'en fait, il est tellement technique. Il se porte tellement sur des choses d'une très grande précision qui te donne assez peu d'idées de l'à peu près que ça devrait rendre. Bon, voilà.
Oui, et comme beaucoup de livres, c'est juste, je peux ajouter rapidement, états-uniens ou bien de chefs états-uniens qui font des recettes en ligne, l'utilisation du robot mixeur est absolument omniprésente. Pour moi, personnellement, je trouve des usages qui n'en ont pas besoin pour faire n'importe quelle pâte à gâteau, n'importe quelle pâte tout court. Un robot mixeur est utilisé. Je militerai toute ma vie pour le fait que le robot mixeur n'est pas nécessaire dans aucune situation. N'en achetez pas, ça ne vaut pas le coup.
Genre le robot à...
Le KitchenAid. Le robot mixeur à pâte de cuisine, ouais. Pour passer en fait moins de temps à tourner, mais c'est vrai que... Enfin, voilà,
ouais, quoi. Mais sinon t'es obligée de pétrir ta pâte. Moi j'aime pas, je sais que vous aimez les filles, moi c'est pas mon truc. Hein.
C'est vrai qu'il y a un truc sensoriel. Genre, ouais.
Ouais, c'est ça.
Il faut un vrai plaisir à monter ces blancs en neige, ce qui me donne une bonne transition pour ma rubrique de ce jour sur une recette que j'ai testée deux fois et ratée une fois, celle du fallen chocolate soufflé, donc il y a cake à la fin, donc du gâteau soufflé et tombé au chocolat. Je sais pas, je fais une traduction vraiment pourrie, mais c'est ça l'idée.
Soufflé tombé.
Ouais. Tombé, voilà.
Purée, c'est Capucine !
Cap ou pas cap, pour un brûlé, soufflé, tombé. Pour un brûlé, soufflé, tombé. Des soufflés, j'en ai vu plein à la télé. C'est magique, ça monte tout seul, c'est grâce aux œufs, je crois. C'est l'exercice qui montre que tu es très forte, beau gosse de la cuisine. Sur Top Chef, c'est la crème de réussir son soufflé. Sola sait que je n'en suis pas capable. Elle propose de le laisser tomber pour que ça soit plus simple. Fallen chocolate soufflé cake. Je retrousse mes manches et j'y vais. Je n'ai pas mis de tablier la première fois. Il faisait chaud, j'étais dans une cuisine bien plus grande que la mienne. Je ne prends jamais mon temps, mais là... Soufflés are super fussy. Alors j'ai tout donné. Tranquillement, j'ai mis dans le tiers bas du four une plaque qui préchauffe à 190 degrés. J'ai fait fondre du chocolat, 300 grammes, et du beurre, 140 grammes, au bain-marie, parce que ma mère, dont c'était la cuisine, n'aime pas les micro-ondes. Le bain-marie, c'est tout doux. J'avais beaucoup de temps pour penser, pour danser et pour séparer 5 blancs de 5 jaunes d'œufs. It's really more like the love child of a brownie and a chocolate soufflé. Sophisticated, but simultaneously a rebel. J'ai ajouté dans le beurre et le chocolat fondu 53 g de sucre brun, 20 g de poudre de cacao, 2 cuillères à soupe d'eau et autant de sel et bien fouetté. Puis j'ai ajouté aussi des jaunes d'œufs et j'ai refouetté. Ah oui, j'aurais pu et dû le dire plus tôt, c'est une recette qui fait mal au bras.
Ensuite, le chocolat et sa compagnie reposent. Et là, c'est le drame, le moment clé. Celui de faire monter les œufs. Ce sont les œufs qui font le souffler, je crois. The meringue, je ne sais pas, should hold straight with a tip that curls back onto itself. J'ai la chance d'avoir chez ma mère un fouet polonais qui ressemble à un ressort. Le mouvement du bras est différent de celui du fouet français. Il faut appuyer en petits mouvements réguliers sur le ressort. La sueur perle sous les bras, la chaleur monte dans la cuisine, les blancs montent. J'ajoute 100 g de sucre, je les transforme, 5 minutes, 10 minutes, ça commence. 15 minutes, 20 minutes, on y est presque, 25 minutes et ça y est, j'y suis. J'ai fait une meringue. Ce n'est pas une recette pour les gens pressés. Il faut maintenant incorporer la meringue au chocolat, progressivement, pour ne pas trop la casser. Elle est belle, elle tient à l'envers. Elle est foamy and glossy. La cuisson, c'est le plus facile. Pas pour moi, je crois. Quand j'ai enfourné la première fois, j'ai oublié de tourner la page. Dommage. La page suivante m'expliquait d'abaisser la température du four pour la cuisson, à 85 degrés pour ne pas abîmer la jolie meringue blanche. Si vous vous souvenez bien, mon four était préchauffé à 190 degrés. 5 minutes après, j'avais tout cramé la jolie meringue. Et le gâteau qui n'avait pas pu souffler. Soufflés are fussy, et moi aussi. La deuxième fois, je mets un tablier. Je reprends la fonte, le mélange, le fouettage, le ressort, l'incorporation. J'ai décidé de préchauffer le four plus tard et directement à 85 degrés. Le gâteau a cuit 30 minutes, il a parfaitement soufflé. Ensuite, comme avait dit Sola, il est retombé à l'air frais. Et au goût, aérien, mousseux. The chocolate here isn't simply adding flavor. It's important to the structure and texture of the cake. Il était parfait, je ne le ferai plus.
Vous écoutez Purée, l'émission de cuisine qui donne la patate, sur Radio Campus Paris 93.9.
Vous venez d'écouter The Diner de Billie Eilish, et si on fait une traduction toute pourrie en français, ça voudrait peut-être dire le dîner. En tout cas, c'est un faux ami en vérité, regardez sur internet ou demandez à vos parents. Mais peut-être que vous êtes effectivement en train de dîner à cette heure-là, on espère que notre émission est diffusée entre 18 et 19h. Et puis, pour reprendre un peu le fil de notre discussion, on l'a dit rapidement, c'est vrai que c'est quand même un livre états-unien du coup. Enfin, il y a une édition de Grande-Bretagne, mais c'est quand même un livre des États-Unis et qui n'est pas encore traduit en français. Donc, on a toutes les trois, parce que c'est vrai que je sais même plus si on l'a dit, mais on a toutes les trois du coup cuisiné à partir de ce livre en anglais, quoi, quand même. Et non seulement la langue c'est l'anglais, donc c'est pas notre langue maternelle à aucune de nous trois, mais en plus, ça implique aussi quand même des trucs différents, des systèmes de mesure, des ingrédients, voilà. Donc, Carla, je me demande si tu n'avais pas un petit truc à nous raconter avec un ingrédient par rapport à ça.
Oui, moi, j'avais vraiment très envie de faire un tres leches, qui est une recette d'Amérique latine, mais je ne saurais franchement pas vous la situer, qui est en fait un gâteau que j'ai goûté une fois dans un restaurant absolument délicieux. Voilà, et bref. Et
où ça, dis-nous.
Mais en fait, je crois que le restaurant s'appelle Apu, APU, ou API, API, et ça se trouve à Grand Boulevard, juste un petit peu au nord de Grand Boulevard, dans une rue parallèle à la rue de Grand Boulevard, que je recommande chaudement. C'était le dessert du jour, mais peut-être qu'avec un peu de chance, vous allez tomber sur ce dessert-là ce jour-là. C'était... Par ailleurs, le restaurant était vraiment très bon. Bref. Et donc, je m'étais dit, super, un tres leches, j'ai trop envie d'en faire un, c'est vraiment un dessert délicieux, et que vois-je ?
Ça s'appelle APU, APU, un restaurant péruvien qui se situe au 35 rue Bergère, dans le 9e arrondissement de Paris.
Merci, Capucine. Et oui, et donc, je vois quoi ? Donc, les trois laits qui seront utilisés seront le lait concentré sucré, le lait normal et le buttermilk. J'étais en mode. Le buttermilk. En fait, buttermilk, donc bas beurre, ne se trouve pas. En tout cas, d'après moi, si vous savez où se procurer du buttermilk.
On est sur Radio Campus Paris.
Dans Paris, j'adorerais ça, parce que j'étais un petit peu en mode, oui, du bas beurre, j'en ai en effet déjà bu chez ma grand-mère, qui se le faisait livrer, de fait, par quelqu'un qui, sans doute, devait posséder une vache. Bref. Et j'étais en mode, mais du coup, est-ce que les Américains ont du bas beurre readily available.
La légende dit que chaque Américain a une vache chez lui.
Possède une vache.
Strictement pour le babeur.
Voilà. Et c'est un peu la même question que la heavy cream. Est-ce qu'on parle d'une crème épaisse ou est-ce qu'on parle d'une crème entière quand on parle de heavy cream? Voilà.
Ouais. Surtout qu'en français, en France en tout cas, on a plein de sortes de crèmes. On a la crème liquide. Mais la crème liquide, ça peut être de la heavy cream, parce que ça peut être de la crème liquide entière, donc genre à 30 et quelques pourcents de matière grasse. Après, on a de la crème liquide. Non, je viens de dire ça.
Légère.
On a de la crème fleurette, qui elle aussi peut être entière. Et après, on a la crème fraîche, ce que nous, on appelle la crème fraîche, mais je sais pas si c'est...
Et là encore, il y a de la crème fraîche entière, de la crème fraîche épaisse, de la crème fraîche avec peu de matière grasse, enfin, de la crème fraîche genre crue ou nature. Enfin oui, si c'est ça, crue.
Ouais.
Mais tout ça, c'est des choses qui n'existent pas dans la même mesure aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas le droit de commercialiser des produits avec du lait cru. C'est aussi pour ça qu'ils ont une moins grande variété de fromage.
Mais ces problèmes de traduction viennent aussi à d'autres moments parce que, par exemple, une partie des ingrédients sont traduits en grammes, mais du coup, directement depuis les cups, et du coup, les mesures sont parfois absurdes. Genre,
367.
Ouais, 221 grammes. Enfin, moi, j'ai un verre doseur. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Et alors que parfois, d'autres ingrédients ne sont pas du tout transférés en grammes. Et donc, dans ce cas-là, c'est quand même un cup ou que sais-je.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Moi, je vais vous avouer un petit secret honteux sur moi, mais je n'ai pas de verre doseur ni de balance. Ouh. J'ai exclusivement des cups et des spoons américaines pour aucune raison. Oui, donc quand je fais des recettes françaises, je dois chercher sur Internet grams to cups pour pouvoir convertir en les cups que j'ai chez moi. Voilà, donc c'était très pratique pour moi de travailler à partir de ce livre dans lequel toutes les mesures étaient données avec des instruments que j'avais déjà chez moi pour mesurer. En fait, je trouve ça beaucoup plus fun parce que du coup, tu remplis un petit truc à pile la bonne taille alors que le verre doseur, t'es toujours là, tu regardes les traits, c'est pas au bon endroit, le trait et tout machin. Alors que les cups, c'est vachement bien, j'en ai genre une entière, une demi, un tiers, un quart, un huitième. Et enfin, bref, je sais pas, c'est trop bien quoi. Bon voilà, et du coup, les spoons que j'ai, elles disent les centilitres. Donc j'ai genre 1,5 centilitres, c'est la plus grosse, et puis ça va jusqu'à genre 0,15 je crois centilitres, mais c'est trop bien, c'est trop pratique. Enfin, je trouve ça plus précis en fait. Mais en tout cas, enfin, il y a aussi des termes, même des termes de cuisine qui se traduisent pas vraiment ou pas exactement de la même manière en français, enfin, qui n'ont pas d'équivalent absolu. Genre, qu'est-ce qu'on a dit hier?
Simmer.
Ah oui, voilà.
Mais non, simmer, on avait trouvé frémir. Frémir.
Ça voulait dire frémir, mais bon, c'est pas forcément évident. Il y a genre sear, je crois que ça veut dire saisir, mais sauf que saisir en français, ça veut vraiment dire. Ça dure 2 secondes, quoi. Quand tu saisis, je sais pas, un morceau de viande, tu le saisis pour qu'il presque crame, quoi, qu'il devienne un peu croustillant. Et ensuite, il faut le faire cuire d'une autre manière. Alors que, par exemple, Sola, elle a une recette de poulet qui est seared. Et où là, en fait, le poulet, il cuit intégralement. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu plus que saisir. Enfin, ouais. Vous voyez ce que je veux dire?
Et il y a char aussi. Oui, qui est encore autre chose.
Et charred est très souvent utilisé, quoi.
Ouais.
C'est comme griller.
Mais comme un peu brûlé, non? Comme c'est brûlé. Genre grillé jusqu'à.
Mais en fait, c'est notamment un truc qui se fait sur des grilles, enfin, ou genre des plaques grilles. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus commun aux États-Unis qu'en France, en tout cas dans les livres que je regarde, que les gens aient ça chez eux. Alors que moi, j'ai évidemment pas de grill, quoi.
Et donc, ça se fait au barbecue, vous pensez? Parce qu'il y a peut-être une culture du barbecue aussi, hein.
Mais j'ai l'impression aussi que peut-être il y a un petit peu plus de cuisinière au gaz sur lequel tu peux de fait mettre une plaque sur laquelle les ingrédients brûlent plus facilement. Quoi. Impossible à faire sur une plaque électrique.
Et l'induction, n'en parlons pas.
N'en parlons pas.
Mais écoutez, je vais être très très honnête avec vous. Je n'ai vraiment que très très peu lu les textes du livre qui sont hors des recettes. Non mais j'ai essayé franchement plusieurs fois. Mais j'avoue que j'ai un peu du mal. En fait, c'est vraiment très très scolaire. Alors pourtant que le livre commence par une introduction dans laquelle Sola raconte que malgré son apparence, c'est une brown girl avec des lunettes et une bob cut, enfin une, comment on dit ça là, une coupe au bol.
Un carré.
Voilà, elle dit que tout le monde croit toujours qu'elle était première de sa classe, mais que pas du tout, elle a failli rater le lycée parce qu'elle était trop souvent absente, à l'école de cuisine, elle galérait parce qu'elle avait du mal à genre apprendre les techniques sans savoir pourquoi on faisait telle et telle technique, ce qui bon, était un peu un problème de riche à mon avis. Mais en tout cas, donc dans cette intro, elle nous explique qu'elle n'est pas du tout scolaire, mais qu'ensuite, elle a trouvé ses propres manières d'apprendre, voilà. Et que donc, c'est en ayant beaucoup de contexte, beaucoup d'informations, en comprenant tout, comment ça marche et tout. Et même si je pense qu'il y a des choses sur lesquelles je suis un peu comme ça, j'avoue, la cuisine, c'est moins le cas. Moi, je n'ai pas d'appétence particulière à comprendre tous les procédés scientifiques qui se passent. Parfois, quand quelqu'un me le raconte à l'oral, je trouve ça sympa, et notamment dans les vidéos YouTube de Sola, en général, je trouve ça assez sympa. Mais là, dans le livre, c'est vraiment... Mais c'est 10 pages de texte sur pourquoi bouillir les œufs de cette manière. Et j'avoue que j'ai du mal à... J'ai vite décroché.
Mais c'est vrai que ça a quand même une utilisation et une logique dans le livre. Parce que moi, personnellement, j'ai fait une recette de brownie, dont je ne me rappelle plus du nom.
Future brownies, un truc comme
genre brownie venu du futur. Et en fait, j'avais un petit peu, j'avais même pas lu le titre, j'en avais surtout pas lu l'entête de la recette. Je l'ai juste fait. J'étais très appâtée par les photos. J'ai fait cette recette qui est faite avec de la farine de riz gluant, du sucre glace, et du coup qui a une texture de brownie assez pas usuelle. Et bon, bref, c'est absolument délicieux, avec un goût chocolaté très riche. Et juste, je me disais, mais pff, trop bizarre, c'est quand même pas un brownie, c'est pas exactement ça un brownie. Bref, oui, l'introduction disait, ceci n'est pas un brownie normal, c'est plutôt comme si le brownie venait de l'espace. C'est vrai que c'est plutôt un brownie de l'espace. Voilà.
Mais c'est vrai que je trouve que ces énormes pages de texte, ça dessert un peu le truc, parce que je pense que, c'est... en fait, quand tu les lis, il y a des informations qui sont intéressantes, qui t'aident en vrai. Même dans, je sais pas, elle t'explique des trucs même scientifiques, mais aussi pour te permettre de réaliser mieux les recettes. Et c'est vrai que ça aide. Mais quand tu fais les recettes juste comme ça, bon, t'es un peu, c'est un peu rébarbatif, quoi.
Je dirais qu'elle a vraiment le souci qu'on réussisse et qu'elle semble un petit peu stressée qu'on rate ses recettes.
Mais c'est... Vas-y.
Non, mais je me demande si c'est pas du coup quelque chose qui peut être intéressant à l'usage, et que là, en fait, on a testé toutes ces recettes en un mois, en ayant par ailleurs beaucoup d'autres choses à faire, etc. Je me demande si dans 2-3 ans avec le livre, en fait, on n'y sera pas revenu en se disant « Ah oui, mais en fait, ça, c'était quoi la technique ? Moi, je vois comment je pourrais avoir envie de refaire une recette et cette fois-ci avoir envie de mieux comprendre qu'est-ce que j'avais peut-être raté. » Notamment, ça, c'est quand même un point assez positif, c'est qu'il y a vraiment des... Enfin, sur plusieurs recettes qu'elle considère comme étant des recettes plus compliquées que les autres, elle a une vraie réflexion ensuite sur bon, j'ai raté, pourquoi si c'était plutôt comme si, bah en fait c'est que t'as peut-être fait ça, si c'était plutôt comme si. Et je trouve que bon, bah c'est assez bien pour progresser, et que du coup nous on l'a à peu près toutes pris de la même manière, c'est-à-dire en testant quelques recettes, mais que peut-être on peut y revenir et le reprendre d'une autre manière, quoi.
Ouais, en fait je trouve aussi que c'est un livre pour gens qui aiment la cuisine déjà. Enfin, je sais pas si un livre comme ça, quand t'es pas hyper intéressé par la cuisine, ça te fait avoir un plaisir énorme en cuisinant. C'est plus un livre de technique, je pense.
Oui, et pas un livre de kiff.
Ouais, voilà, c'est pas un livre de kiff. À la différence de d'autres livres de cuisine, hein, qui eux sont très... par exemple, peut-être l'épisode suivant. De livres qui sont très orientés, on va vous faire aimer la cuisine c'est fun. Ce qui n'est pas vraiment le cas là, non. La cuisine, c'est vraiment tu rates ou tu réussis. Et t'apprends les techniques, et t'apprends comme ça, et tu refais.
Tu deviens meilleur.
Et tu practices.
Parce qu'on est aux États-Unis où il faut être le meilleur.
C'est ça, mais vraiment. Et puis aussi parce qu'elle est chef professionnelle, donc c'est dans sa façon de voir la cuisine, je pense. Mais en l'occurrence, c'est pas forcément la nôtre, quoi.
Oui, et donc on en a profité pour faire un dîner qu'on a enregistré et qu'on souhaite vous diffuser par petits morceaux où on discute de plusieurs recettes qu'on déguste en même temps.
Voilà. Moi, c'est Capucine et je fais des petits raitas. C'est pas mal, non, comme mojo. Ah, et si je cassais des noix? Qu'est-ce que je pourrais mettre de funky?
Ah oui, est-ce que je peux avoir les chili flakes?
Tu fais à quoi ta raita?
C'est un peu dégueulasse à ce stade, mais il y a de la faisselle, de la betterave, de la pomme, j'ai oublié ce qu'il y a d'autre, du sel, du paprika, bientôt du miel, et il va falloir que je trouve un ingrédient mystère pour relever, ah, et du jus d'orange, enfin, de, ouais, l'orange pressée, mais il va falloir trouver un ingrédient mystère, parce qu'à ce stade, c'est un peu d'eggs.
Mais tu l'as pimpé, non? C'est pas comme ça dans la recette.
Non, il y a un truc, play with it, voilà.
Joue avec.
Bref, mais j'ai fait une recette telle qu'elle est dite et ensuite j'ai utilisé un peu la formule qu'elle donne.
J'ai fait un truc vraiment dégueulasse.
Tu veux voir, je peux goûter?
Je trouve ça vraiment infâme.
Infâme à ce point-là, il y a quoi dedans?
C'est le paprika, c'est un raté. Enfin... Tu vois, c'est dégueulasse.
Non, ça va.
Non, c'est dégueulasse, Camille, c'est pas grave. Par ailleurs, c'est un essai. Mais
en
c'est
fait, c'est le sucre. Non? Il y a quoi? Il y a du miel dedans?
Ouais.
Waouh, mais c'est magnifique, t'es en train de mettre un fruit de la passion sur un raita.
Ouais, parce qu'il fallait mettre des graines de grenade et j'aime pas ça, donc
ça a l'air bien meilleur. Ça a l'air bien meilleur.
Délicieux.
Ça, c'est pas mal, hein?
C'est bon. Et avec le fruit de la passion, je trouve ça très bien ensemble.
Oui, et ça, c'est pas... Mais c'est les génial. Deux sont très différents. Ah, je suis contente de mettre les CLM à ma propre inspiration.
Pour un truc de ferme... Oh là, ça fait des bruits
d'un... Et toi, Camille?
Moi, j'ai fait des carottes avec de l'ail, du chili, du white wine. Mais en fait, elle donne aucune quantité, donc on va faire...
Parce que c'est pas les quantités qui sont sur la recette de base.
Et je sais pas ce que c'est la recette de base, parce que je crois que j'ai fait ça. Mais je pense pas, parce que c'est...
Ah oui,
tu
c'est...
Tu vois ce que je veux dire?
Any kind of.
Voilà, exact.
Ouais, c'est ça.
Exact. Et du coup, là, il faut mettre du white wine et simmer un petit peu douce by half. Donc, c'est ce qu'on va faire. Mais j'ai peur que mon white wine splash dans le...
Camille toast des grains de coriandre.
Wow. Voilà. Puis après, je mets délicatement sur... Une par terre et le reste sur ma planche à découper.
Et la coriandre grillée va sur la salade de concombre et de cornichon.
Exactement.
De l'alliage cornichon-concombre.
Moi j'adore.
D'accord.
Moi aussi je suis. En fait j'adore le cornichon.
J'adore le cornichon.
Je trouve que ça bonifie énormément de choses.
D'accord. Alors pour moi personnellement qui n'aime pas trop le cornichon, ça m'aide à manger le cornichon.
Mmh. Ah,
le fait qu'il y ait du concombre.
Mmh. Qu'est-ce qu'on mange en dessert?
Bah raconte-nous.
Moi, j'ai fait... Alors, en anglais, ça s'appelle un brown buttered lemon curd, qui est... Alors, en fait, c'est juste
lemon
une...
Square.
Lemon squares, pardon. Mais en fait, c'est juste une crème de citron qui est posée sur de... un biscuit que j'ai fait avec du beurre...
Bruni.
Du beurre noisette. C'est pas ça, le beurre noisette?
Du beurre noisette,
voilà. Et qui est resté toute la nuit au frigo pour faire un petit peu gélatineux. Et Capucine a fait un...
J'ai fait quelque chose qui s'appelle un fallen chocolate soufflé cake en anglais, mais du coup c'est un soufflé qui est redescendu au chocolat. Je ne sais pas quoi dire d'autre.
C'est délicieux, hein.
C'est délicieux.
C'est le meilleur gâteau au chocolat que c'est ma life.
Et ça, sur tout ça, très c'est trop bon.
Quand je goûte le chocolat, il est vraiment intense.
Yeah.
Vous écoutez Purée, l'émission de cuisine qui donne la patate sur Radio Campus Paris 93.9.
Et donc là, vous venez d'écouter Mungberry Moon Delight de Paul McCartney quand il était dans sa période fermier. Peut-être qu'il avait du babeur.
Et pour revenir à Starkir, notre livre du jour, dont on a quand même beaucoup parlé, en fait, finalement, c'est pas à lui que je veux revenir, mais à Sola, son écrivaine, la chef qui a imaginé les recettes. Parce qu'il se trouve que nous trois, mais je crois surtout Carla et moi, on connaissait Sola avant de connaître ce livre. Et on l'a connue sur Internet, parce qu'on est chroniquée online. Donc on l'a connue sur TikTok et sur YouTube notamment. Peut-être Carla, tu peux nous parler un peu de comment tu as connu Sola, quel type de contenu elle fait sur Internet, qu'est-ce que tu en penses
Donc chronically online, je dirais que c'est maladivement en ligne. Et en fait, oui, moi, je l'ai connue au début dans la Bon Appetit Test Kitchen, qui était donc dans, en fait, ça avait plusieurs formes, mais la chaîne YouTube du magazine papier Bon Appetit, qui appartient au groupe médiatique Condé Nast, qui détient aussi, par exemple, Vogue, voilà, qui a eu une grosse maison d'édition états-unienne de presse. Bref, et dans cette Bon Appétit Test Kitchen, Sola était une figure à la fois très affable, très magnanime, qui aidait énormément les autres chefs, mais qui avait un petit peu un rôle subalterne, quoi, qui apparaissait dans les émissions des autres pour les aider à faire des éléments plus techniques de leurs recettes, et qui n'avait pas forcément la même place sous le feu des projecteurs. Bref, après un scandale a éclaté, elle était payée, elle ainsi que les autres, ses autres collègues de couleur, moins que leurs camarades blancs. Et donc la cuisine a un petit peu explosé, machin.
Non, mais les collègues de couleur, on est en France, on n'est pas obligé d'utiliser le terme people of color, qui est vraiment pour le coup très états-unien. Donc c'est collègues qu'on peut dire racisés ou non blancs, selon les préférences personnelles. Mais c'est vrai, effectivement, mais notamment, ce qui est intéressant, c'est que le scandale, en fait, il est parti du fait que le rédac chef de Bon Appétit. Il y a une photo de lui qui a fuité sur les réseaux sociaux où il avait une brown face, donc il avait le visage, c'était okay. Un homme blanc et il avait le visage grimé en brun. Et voilà, et donc il y a eu tout un. Enfin, ça a fait vraiment un gros scandale après parce que ça a été le point de départ un peu de la flamme, quoi, où pas mal de personnes racisées de Bon Appétit ont dit mais en fait, on est moins payé que nos collègues et ont aussi dénoncé des phénomènes de. De discrimination, d'insultes, voilà. Et donc, à ce moment-là, Sola, elle est partie de Bon Appétit.
J'apprécie chez Sola son côté « j'ai envie de tout vous apprendre ». Je trouve qu'il y a un côté « moi, je n'ai pas de secret dans ma cuisine, je n'ai pas de recettes secrètes, je n'ai pas de trucs... Il n'y a rien d'impossible, quoi. Je suis très...
Généreuse ?
Ouais, généreuse dans sa manière transmettre ses recettes, et c'est ça que j'aime beaucoup chez elle. Et puis voilà, enfin, le fait qu'elle soit je sais pas, elle a pas l'air prétentieuse, quoi. Elle a pas une cuisine prétentieuse non plus, et puis quand on la voit dans ses vidéos YouTube ou même ses TikTok, tu te dis pas jamais je ferais ça. Genre, c'est pas du tout comme Top Chef ou Master Chef ou une maîtrise de la cuisine à ce niveau là résulte en des résultats où tu te dis je ne ferais jamais ça. En fait, tu vois plutôt ce qu'elle fait, tu dis ah oui, c'est des ingrédients que je connais, c'est des recettes que de base je connais aussi, juste avec une maîtrise assez intense et une volonté de contrôle et de résultats parfaits poussés à son absolu, quoi.
Oui, mais en fait, j'ai l'impression que ça tient aussi au format sur YouTube et sur TikTok, où du coup, l'idée, c'est vraiment... Enfin, moi, je sais que vraiment, j'ai un dossier sur TikTok de recettes à faire qui est énorme. J'ai beaucoup, beaucoup de TikTok de cuisine. Et c'est vrai que le format invite beaucoup à donner une recette simple en un temps record que les gens peuvent reproduire chez eux. J'ai l'impression qu'il y a assez peu d'attrait dans ces formats-là pour les recettes hyper compliquées qu'on pourrait jamais faire avec des ingrédients qu'on n'a pas. Et d'ailleurs, en fait, aussi, comme une grande partie du contenu qui est posté sur Internet de cette manière-là, les gens réagissent aussi beaucoup et donc assez vite quand tu fais une recette dans laquelle tu utilises, je sais pas, un ingrédient chelou ou galère à trouver ou... En fait, très vite, il y a des gens dans les commentaires qui disent « Quoi ? Mais moi, je pourrais pas du tout faire ça » et tout et tout. Et je dis ça sur ce ton-là, mais je dénonce pas forcément. Moi aussi, j'avoue que je suis une... Enfin, j'aime bien voir des recettes qui me semblent faciles à faire sur Internet pour pouvoir les refaire, quoi. Et puis, elle a un truc très... elle vient avec sa propre personne. Il y a des vidéos dans lesquelles elle montre ce qu'il y a dans son frigo, dans presque toutes les vidéos, enfin pas presque toutes, mais dans beaucoup de vidéos qu'elle fait. Il y a son mari qui d'ailleurs s'appelle Ham, comme le jambon en anglais, ce qui est quand même exceptionnel, qui apparaît dans sa vidéo, et souvent aussi son chien à qui elle donne un petit morceau de ce qu'elle mange. Enfin, c'est vraiment le rêve américain un peu. Elle est là dans sa magnifique cuisine avec ses trucs super. Et puis quand elle te raconte, t'as l'impression effectivement que la cuisine c'est assez facile, quoi. Je trouve, quand elle le raconte en vidéo, et c'est peut-être là une différence un peu entre sa cuisine, enfin ce qu'elle propose en vidéo et ce qu'elle propose dans son livre, où son livre montre en fait que la nécessité technique est énorme, alors que dans les petits formats vidéo elle vulgarise hyper bien. Elle dit non mais voilà, donc en fait il suffit d'avoir un peu de chicken broth, donc de bouillon de poulet dans son congèle, et puis voilà, après le tour est joué, il suffit de foutre quelques pommes de terre et un peu de chicken broth et ça y est, le repas est fait. Ensuite tu ouvres son livre et tu vois qu'il y a genre 48 étapes pour préparer du bouillon de poulet, enfin bon voilà.
Et donc ça nous amène un petit peu à se dire, mais en fait, bon, moi j'ai vraiment j'ai été prise par le marketing de Sola, quoi, et j'ai 100% choisi ce livre pour sa personnalité en ligne. Et on se demandait un petit peu, mais du coup, ces figures de chefs stars et ces starifications des chefs par un processus un petit peu en ligne, comment ça nous influence, nous, à acheter des livres de cuisine, du reste assez cher, hein, je crois qu'ils coûtaient quand même 40 balles.
Oui, mais non, mais c'est vrai, puis c'est un phénomène qui n'est pas très très différent du phénomène Ottolenghi, quand même, qui est un auteur, j'allais dire, enfin oui, un auteur de livres de cuisine, mais aussi un chef israélien et britannique, c'est ça le mot, qui a publié beaucoup, beaucoup de livres ces dernières années et qui sont assez plébiscités, notamment parce que c'est des très beaux objets, tout blancs avec juste un citron sur la couverture ou un piment, enfin je sais plus exactement ce qu'il y a sur chaque couverture, mais c'est très, très épuré. Un oignon, ah oui, t'as raison, il y a un oignon. Ouais. Et où le phénomène est un peu le même. Enfin, et c'est aussi, je trouve, qu'on nous appâte un peu par le fait que les recettes qui sont sur Instagram ont l'air globalement faisables et nous sont délivrées avec le sourire et le charisme des gens sur Instagram. Et puis ensuite, bon, le livre ne reflète pas nécessairement la réalité de ce dont on a eu l'impression, quoi, sur Instagram. Mais parfois, oui.
Non, mais elle a une recette de poulet rôti qui prend, je crois, 2 jours. Enfin, ce qui est délirant. Et elle a une recette qui s'appelle Same Day Roasted Chicken, genre poulet rôti du même jour, en mode tu peux le faire en un seul jour. Comme si c'était incroyable de pouvoir faire un poulet rôti en un seul jour, ce qui est quand même bon.
Et en fait, je trouvais que parfois, il y avait un petit peu un manque d'inspiration dans l'usage des épices et des herbes.
Oui, oui.
Ce qui est un peu étonnant pour une chef contemporaine, pour qui j'ai l'impression que la tendance est quand même un petit peu plus... tout le monde met du sumac partout, voilà. Et par contre beaucoup plus d'inventivité et de fun au niveau des desserts, qui pour le coup j'ai quand même trouvé qu'ils étaient assez bons dans leur ensemble,
mais trop sucrés. Moi je trouvais trop sucrés, surtout les crèmes.
Bah, c'est à dire qu'à vrai dire, comme il y a du sucre dans toutes les recettes quasiment, même les recettes salées, en fait je pense qu'il y a aussi une tolérance au sucre qui se développe aussi, qui est peut-être pas la même d'une tolérance peut-être plus française, dans laquelle on a moins l'habitude d'utiliser du sucre dans toutes les recettes et dans les recettes salées notamment. Et ça fait que du coup, il y a... Enfin, en tout cas, Camille et moi, Carla est moins d'accord quand même avec nous, mais on a trouvé globalement que les desserts étaient un peu trop sucrés pour nos palais personnels. Et du coup, parfois, enfin, moi je trouve que parfois ça prend un peu le dessus sur le goût, mais de la même manière que elle fait des recettes de raita. Donc le raita, j'avoue que je suis très mal renseignée, pas comme Camille dans sa rubrique que vous allez entendre tout à l'heure, sur l'histoire du raita, etc. Mais en gros, c'est une base de yaourt et ensuite, je sais pas, il y a des trucs dedans. J'aurais tendance à raconter ça comme ça, mais franchement, ça se trouve, je dis n'importe quoi.
Un peu épicé, non ? Et un peu acide.
Ah oui, voilà, c'est du yaourt, de l'acide et des éléments à l'intérieur. Et elle en fait quelque chose qui est systématiquement sucré. Et j'ai testé une recette de raita qu'elle donne elle-même, c'est dans son chapitre sur le goût. En fait, elle donne elle-même des exemples de recettes de raita, mais elle donne aussi un peu les éléments qui permettraient de faire un raita en disant « appropriez-le-vous ». Et elle donne le raita et d'autre part, je crois, la salade de concombre comme des moyens de tester le goût pour habituer son palais à goûter différentes choses. Et du coup, j'ai fait une recette qu'elle-même donnait, qui était un raita aux agrumes. rhume, qui était mais très sucré et du coup assez mauvais en apéritif quand on l'a mangé. Vous pouvez témoigner, les filles, avec des petits biscuits apéritifs, ça n'allait pas du tout. Et un raita que j'ai fait moi-même, dans lequel j'ai pas mis de sucre, beaucoup plus vinaigré, acide et épicé, et qui lui avait vraiment... Enfin bon, voilà, mais encore une fois, c'est aussi peut-être... parce qu'on n'est pas dans le même pays et j'ai l'impression qu'aux États-Unis quand même tout est globalement plus sucré qu'en France, même le pain, même, enfin voilà, je sais pas, j'avais vu un truc là-dessus mais évidemment c'est très mal sourcé, vous allez vous y habituer avec notre émission.
Moi j'ai trouvé sous-utilisation de trucs que j'ai l'impression, enfin que moi j'utilise tout le temps, genre du bouillon cube ou en poudre, je sais pas, plein de sortes d'épices, des herbes de Provence, du basilic,
de l'ail, enfin.
De l'ail. Ouais, ouais. Il y a très peu d'ail dans ce livre.
Il y a très peu d'ail.
Mais même de l'oignon, hein, je dirais. Je trouve que les agents qui, pour moi, sont un peu la base de la cuisine pour genre donner du goût à peu importe ce que je fais, là, n'existent pas dans le livre de Sola.
Ouais, ouais. Ce qui fait que du coup, c'est très exigeant sur d'autres trucs. Par exemple, comme, si elle veut du bouillon de poulet, elle est obligée de le faire et ça prend 3 jours.
Elle est obligée par la loi. Elle a un pistolet sur la tempe et on lui dit « Fais ton bouillon, Sola !»
Non, mais du coup, il n'y a pas de shortcut, quoi. Il n'y a pas de... T'es raccourci. Dans le rush. Pardon. T'es dans le... T'es en express.
T'es dans la rapidité.
Voilà. Et du coup, bah, tu te veux assaisonner en 2-3 trucs, tes légumes à la poêle. Et bah, non. Pas vraiment.
Oui, et à l'inverse, elle sale énormément l'eau de cuisson des légumes. Et elle a différents niveaux de salaison.
Salinité.
Pour l'eau en fonction du temps que tes légumes vont passer dans l'eau, etc. Et donc par exemple pour un légume qui passe très peu de temps dans l'eau, par exemple si elle veut cuire juste un tout petit peu des épinards avant de les sortir ensuite de l'eau et de les plonger dans un bain froid, ce qui est une technique, je sais pas comment elle s'appelle en français, en anglais ça s'appelle blanch,
blanchir.
Et ben là elle met mais des poignées et des poignées de sel dans l'eau des épinards parce qu'il faut qu'elles en ressortent salées. Et j'ai déjà vu dans des vidéos, elle met énormément de sel, elle dit oui ça vous impressionne mais vous inquiétez pas, ça se sentira pas parce que du coup on va à peine plonger les épinards, et je trouve ça complètement débile parce que du coup tu gâches une quantité de sel mais pas possible pour 2 secondes dans l'eau,
mais
quoi.
Oui.
Est-ce qu'on se dirait pas chacune notre recette préférée de celle qu'on a testée dans les livres de Sola, que ce soit une qu'on a testée nous-mêmes ou que les autres ont testée? On commence par qui veut.
Bah là en fait on est en train de lire les recettes qu'on les a écrites.
mais moi je tiens quand même à dire que j'ai une mention spéciale adressée à une recette en particulier, qui est une recette de risotto au citron grillé, charred, que malheureusement je ne fais goûter à personne, donc je suis un petit peu la seule à pouvoir vous en témoigner sans qu'on me contredise, que j'ai trouvé très bonne. Qui était en plus facile à faire, pas trop, assez économique. Petit bémol tout de même, moi je trouve qu'un risotto au citron, ça ne se suffit pas en soi-même et que ce serait mieux de l'avoir. J'aurais préféré que la recette soit présentée avec un accompagnement, un poisson ou bien autre chose sur le côté pour contrebalancer ce goût très très fort du risotto qui est ma foi délicieux mais qui en lui-même en fait ne représente pas un repas.
Moi, je dirais que ce que j'ai vraiment préféré, c'est la moitié d'une recette. Donc, bon, c'est un peu, mais il y a plein d'autres choses qui étaient très bonnes. Mais c'est dans donc le steak et salade dinner dont j'ai déjà parlé là. Donc, le steak était surcuit, c'était un échec total. Mais par contre, la partie salade était vraiment super. Donc, je vous raconte rapidement parce que franchement, ça vaut le coup. C'est super facile à refaire et je l'ai refait, je sais pas, 10 fois depuis. En gros, tu prends des salades, tu prends des tomates, tu les coupes en gros morceaux, tu les mets dans un bol avec le jus d'un citron, de l'huile d'olive, du sel, et elle met du vinaigre, mais moi j'avoue que je suis pas très fan du vinaigre, voilà, désolée, unpopular opinion, une opinion non populaire.
Ouais, en plus, il y a plein de sortes de vinaigre, capucine.
Voilà, mais moi j'aime pas trop ça, et donc j'ai mis de la sauce soja à la place, et ensuite elle écrase avec le dos d'une cuillère les tomates, qui du coup marinent dans cette espèce de jus assez chargé, et qui est lui-même infusé de l'eau des tomates, quoi, enfin du jus des tomates. Et ensuite, pendant ce temps-là, tu laves ta salade, tu la prépares. Elle met, je crois, des radis dedans. Mais enfin, en gros, tu prends une salade verte et tu mets ce que tu as envie de mettre dedans, quoi. Tu peux mettre, je sais pas, de l'ail, de l'oignon, des noix, des radis, du fenouil. Enfin, peu importe, quoi, ce que tu as envie de mettre. Et ensuite, tu rajoutes au dernier moment ton bol de tomates écrasées avec tout ce qu'il y a dedans, qui font une sauce de salade, mais qui, du coup, a vraiment un goût de tomate. Franchement, c'est vraiment trop bon. C'est, je sais pas, ça prend 15 minutes à faire. Enfin, j'ai l'impression que je suis en train de vendre un truc, mais et je le vendrais très très cher parce que c'est vraiment délicieux, donc moi c'est ça la chose qui m'a le plus marquée, je dirais, dans le livre, quoi.
Trop bien. Moi, je pense que c'est la recette qu'on a fait à midi, parce que donc on s'est retrouvés ce matin pour préparer l'émission. Et on a fait une recette qui s'appelle des spaghettis à la courgette. Et qui est, enfin, c'est vraiment une recette de spaghettis classique, sauf que elle fait cuire ses courgettes avec un fond d'eau à couvert pendant, mais vraiment beaucoup de courgettes, c'est-à-dire trop de courgettes par rapport au, à la quantité de pâte qu'on a l'impression. Elle fait cuire, quand elles sont cuites, elle découvre, et après elle fait rendre l'eau, enfin, elle fait sécher, voilà, elle fait sécher les courgettes qui sont cuites dans de l'huile d'olive avec un peu d'ail. Pendant très longtemps, pendant une demi-heure, jusqu'à ce qu'elle réduise vraiment comme une pâte. Et après, ça change un peu de couleur et tout. Et c'est vraiment délicieux. Et après, elle met ça avec du pecorino râpé. Non, du pecorino râpé. Et de la menthe. Et là, en l'occurrence, c'était des spaghettis. Mais nous, on a fait des spaghettis plats. La variante de ouf. Mais c'était vraiment très, très bon.
Et notamment, ça, c'est très crémeux. Alors qu'il n'y a pas de crème et ça a vraiment... Enfin, c'est assez impressionnant, c'est un peu velouté comme texture, ouais. Quoi.
Et pour le coup, c'est très faisable comme recette, quoi. Il faut juste dessécher les courgettes pendant une demi-heure, mais ça vaut vraiment le coup, je trouve.
Purée, c'est Camille !
Prendre comme base le lait concentré sucré, les œufs battus. Y diluer de la maïzena, de la farine... Faire un roux blanc, puis verser la crème chaude. Dissoudre un peu de gélatine ramollie et de l'agar-agar. Faire cailler avec du jus de citron, de la bière et du vin. Voici quelques-unes des façons d'épaissir une crème. Pendant ce mois de test du livre, mais surtout j'avoue hier soir, j'ai donc fait entre autres une mahalabia au lait de coco et à la maïzena, un posset caillé au citron, une panna cotta à la gélatine et un yaourt aux œufs cuits. Tout ça pour écrire une chronique suffisamment informée sur les crèmes, enfin plutôt les entremets / crème prise / pudding, comme dit Sola. L'occasion pour moi d'apprendre que pudding est un terme très très vague qui désigne en Angleterre les desserts en général, et aux États-Unis surtout les crèmes sucrées, mais avec des exceptions salées notables pour les deux pays, Yorkshire pudding, black pudding, red pudding, white pudding, hog's pudding, etc. En bref, c'est tous les desserts, mais aussi toutes les préparations à base liquide qui se solidifient dans le four, même avec des morceaux dedans. C'est-à-dire qu'à peu près tout est un pudding. Les danettes, le riz au lait, la custard, le kugel ou le fourzitou. L'origine du mot pudding serait français, figurez-vous, de boudin, boudin, boudine, pudding, j'imagine, en référence aux préparations médiévales de viande molle qui cuisait dans un emballage. Je vous ouvre l'appétit. Par comparaison, l'histoire de la panna cotta est nettement plus sexy puisqu'elle représente l'union du lait et du miel, le latis mielé ou latte mielé, à qui d'aucuns prêtent des inspirations bibliques, la terre promise étant le pays où coulent le lait et le miel. Là, normalement, tout le monde se demande depuis le début de la chronique, c'est quoi un posset ? Ce à quoi je vous réponds amablement, chers auditeurices, qu'il s'agit d'un ancien dessert anglais ressuscité au 19e siècle dans lequel un acide, historiquement du vin ou de la bière, fait cailler du lait ou de la crème. C'est aussi comme ça qu'on appelle en anglais le lait rendu par les bébés, ce qui vous donne une idée assez proche de l'aspect. Enfin, n'oublions pas la fameuse moue à la biais, à base ici de lait de coco, grand succès auprès de ma maman, et qui domine clairement le game depuis quelques centaines d'années, puisque le général à qui on l'a servi pour la première fois l'aima tellement qu'il nomma le dessert après lui-même. Aucune considération pour son inventeur, un chef perse dont même la légende a oublié le nom. Je vous laisse avec deux autres desserts du même genre au nom rigolo, le blanc manger et le syllabob.
être fiancé. Un souhait d'amour s'impose, tandis que la pâte repose. Lissez le plat de beurre et laissez cuire une heure.
Vous écoutez Purée, l'émission de cuisine qui donne la patate. Sur Radio Campus Paris 93.9. Vous venez d'écouter Recette pour un cake d'amour, une chanson de Michel Legrand pour Anne Germain, dans Peau d'âne de Jacques Demy.
Voilà, et ben je crois que c'est la fin de notre première émission.
Je vous conseille quand même,
quelque chose.
Excuse-moi, oui, d'aller voir le site internet de notre émission qui est hébergé par Radio Campus Paris pour retrouver en fait des recettes de Sola. Augmenter de nos modifications et de nos petits conseils pour leur bonne réalisation qui sera mise en ligne en même temps que cette émission sur le site de Radio Campus Paris. Vous pouvez chercher purée point d'exclamation Radio Campus Paris et normalement vous devrez le trouver.
Purée, c'était purée. Merci de nous avoir écoutés. Purée, c'est une émission présentée par
Camille Aguirreau
et Capucine Porphyre, réalisée par
Carla Alice
et coproduite par Radio Campus Paris.
Retrouvez-nous un dimanche par mois à 20h et en rediffusion sur le site de Radio Campus Paris.
Vous pouvez déjà retrouver cette émission sur vos plateformes de podcast et sur le site Radio Campus Paris.